France Inter.
France Inter, il est 13h. Et voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des progrès à faire sur les pesticides, mais une qualité de l'air qui s'améliore. Voilà les principaux enseignements de la grande enquête que l'État mène tous les 5 ans sur la qualité de l'environnement en France. Une enquête qui n'a toujours pas été publiée. On s'intéressera à ce qu'il y a dans cette enquête et pourquoi elle est toujours dans un tiroir du ministère de la Transition écologique. À suivre encore, 10 ans après le crash de la Germanwings dans les Alpes de Haute-Provence, proche des victimes de ce crash et habitants côte à côte ce matin pour une cérémonie de recueillement. Nous serons sur place. Nous serons également au tribunal judiciaire de Paris. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Le procès de Gérard Depardieu pour agression sexuelle va débuter dans quelques minutes.
Oui, pas encore de Gérard Depardieu ici, qui sera là, hein, selon son avocat, mais déjà énormément de monde, presse, public, lambda ou célèbre, pour ce premier procès de l'acteur jugé pour agression sexuelle lors du tournage du film Les Volets Verts.
A tout de suite pour vos précisions. Nous écouterons également la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, détailler un plan pour lutter contre les violences sexuelles dans les établissements scolaires et notamment dans les pensionnats. Direction la Turquie, dans les prochaines minutes, vague de répression de la part du président Recep Tayyip Erdogan ces derniers jours contre les manifestations de soutien à son opposant emprisonné. Nous parlerons également de la Nouvelle-Calédonie qui souhaite participer à la Coupe du Monde de football. Et oui, c'est possible. À partir de 13h30, la flambée des cours du café, la graine que l'on s'arrache partout dans le monde, consommation en hausse, mais production perturbée par le réchauffement climatique. Résultat, les cours ont doublé en un an. 01 45 24 7000 pour vos questions et témoignages si vous êtes des consommateurs de café. 13h45, comment se prépare une loi à l'Assemblée nationale ?
Le handicap, il touche toute catégorie sociale, toute sensibilité politique. C'est ça qui fait que dans ce bordel ambiant, pardon de le formuler ainsi, le handicap a cette noblesse de pouvoir un peu sublimer les clivages.
Une loi sur le handicap portée par deux députés, c'est notre feuilleton toute cette semaine. 13h50, c'est la France, les mots du printemps, selon nos régions, avec notre linguiste Mathieu Avanzi. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, le chanteur Florent Motte, Morane et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
L'air, les sols, l'eau des rivières, l'eau de la mer, quel est l'état de l'environnement dans notre pays? Il est très important d'avoir ces informations, évidemment, pour prendre de bonnes décisions. Ainsi, tous les 5 ans, les services du ministère de la Transition écologique rédigent un rapport, une véritable somme avec toutes ces données. Problème, la publication du dernier rapport en date est bloquée depuis 2 mois, mais nos confrères du journal Le Monde viennent d'en révéler les grandes lignes. Bonjour Célia Quiré.
Bonjour Jérôme.
On va voir pourquoi ce blocage avec vous, et puis surtout ce que contient ce rapport. D'abord, allons dans les calanques marseillaises, pour parler de la pollution en mer. Pollution très visible ces derniers jours, car le mauvais temps ramène les déchets sur la côte. Reportage Ulysse Le Toquin.
Des branches, des troncs échoués sur les galets, mais aussi des bouteilles, des sacs plastiques, plein de déchets, ça choque Boularès, marseillais de passage à Sormiou.
Toutes les impuretés qui sont plus ou moins jetées volontairement par les touristes ou par même les bateaux, tout revient. Et après, c'est à nous à ramasser tout ça.
Et c'est récurrent après ce genre d'épisode, raconte Françoise, habitante de Sormiou.
Par Vendée, c'est tout le temps. C'est une mer qui rentre, ça amène toutes les saloperies. Il y avait des creux de 2,50 m, peut-être pas 3 m, 3 m, je suis marseillaise. Mais pour charrier des troncs comme ça, ça montre la force de la mer. Hein.
Et ces orages font d'autres dégâts. À une dizaine de mètres de là, deux hommes essaient de mettre un bateau fracassé sur une remorque. C'est Lolotte, le bateau de Françoise.
La tempête a fait que les amarres ont cassé, le bateau s'est éventré et là on est en train de le renflouer.
Stop, stop, stop.
Ils ont enfin réussi à le mettre sur la remorque malgré qu'il soit ouvert complètement dessous. Merci Dominique.
Dominique de l'entreprise Octopus qui s'occupe des bateaux brisés par les tempêtes. Une autre entreprise est mandatée pour venir enlever les troncs d'arbres échoués. Et enfin, des habitants et des bénévoles vont s'occuper comme d'habitude de tous les déchets.
Reportage ici Provence. Célia Quiré, on vous retrouve. Avant de savoir ce que nous dit ce rapport de la pollution en mer, par exemple, est-ce qu'on sait où il est puisqu'il devait être publié en janvier?
Oui, il est au Commissariat Général au Développement Durable, bon. Au ministère de la Transition écologique, donc rien de mystérieux. Agnès Pannier-Runacher devait le rendre public dans les prochaines semaines, mais le ministère travaillait sur une meilleure introduction. Finalement, on n'a pas de date de publication.
Alors, venons-en au fond. Il y a des améliorations et des dégradations. Dans les améliorations, il y a la qualité de l'air.
Oui, on respire mieux, deux fois moins de dioxyde d'azote en 25 ans grâce à des normes plus dures dans les transports, l'industrie. Les gaz à effet de serre aussi ont diminué de 31% depuis 1990. Il y a des progrès aussi dans la mer, moins de surpêche en France et la forêt prend du terrain. Elle couvrait 19% du territoire au début du XXe siècle, un tiers de l'Hexagone aujourd'hui, mais la croissance des arbres est affectée par le changement climatique.
En revanche, parmi les points noirs, la présence toujours importante de pesticides.
Oui, ce rapport évoque des pollutions préoccupantes. Si les pesticides les plus dangereux ont été retirés, il y a moins de molécules cancérogènes, mutagènes, toxiques. Leur présence a diminué d'un tiers entre 2015 et 2022. En volume global, la France consomme toujours autant de pesticides et elle gaspille trop d'eau. La ressource a diminué de 14% ces 30 dernières années. Cela questionne nos modes de vie. L'irrigation est pointée du doigt dans ce rapport. L'agriculture, c'est 60% de notre consommation d'eau. Autre problème majeur, le plastique. Le recyclage dépasse à peine 20%. Enfin, la biodiversité paye le prix fort de certaines pollutions. Si le castor ou la loutre reviennent dans les rivières, les insectes, les oiseaux voient leur population diminuer. En cause notamment les produits chimiques qui dévitalisent les sols. Un chiffre pour terminer, Jérôme. Entre 1989 et 2023, le nombre d'oiseaux présents dans les villes, les villages, s'est effondré de 44%.
44% d'oiseaux en moins dans nos villes. Merci Célia Kiré pour ces informations. Vous nous parliez des émissions de CO2 dans notre pays. Poursuivons sur ce thème puisque EDF est l'un des acteurs clés de la décarbonation en France. Son patron, Luc Rémont, a été débarqué vendredi par Emmanuel Macron. Tout cela à quelques mois de la fin de son mandat. Luc Rémont qui règle ses comptes ce matin dans le journal Le Figaro. Il dit regretter l'engagement pas suffisant, ce sont ces mots, de l'État pour le financement de la relance du nucléaire dans notre pays. Bonjour Louise Buyens.
Bonjour.
Comment ce départ est-il vécu dans l'entreprise? Je rappelle EDF, 165 000 salariés.
La surprise, brutalité, colère, ce sont les mots entendus dans les couloirs d'EDF ce matin, raconte Serge Dianorsi, secrétaire fédéral de la section énergie et mines du syndicat Force Ouvrière.
Le personnel est un peu abasourdi hein, de la façon de faire du gouvernement. C'est un peu la surprise qui règne.
Pour le syndicaliste, aucun doute. Si Luc Rémont est débarqué, c'est parce qu'il a refusé de brader les prix de l'électricité face à la pression de certains gros industriels.
Si le gouvernement plie aux demandes des industriels et des fournisseurs alternatifs, cela aura un impact sur le budget d'EDF et qui va nuire notamment aux investissements annuels.
Alors que l'entreprise fait déjà face à de grands défis, gérer une énorme dette de 55 milliards d'euros tout en devant investir dans la filière nucléaire. Ce qu'il faut, c'est de la stabilité, estime Gwenaëlle Plagne, le secrétaire du comité social et économique central d'EDF. Il sera très attentif à la feuille de route du prochain PDG.
On a besoin d'une stabilité, de choix stratégiques, politiques pour le pays qui sont importants. Et on dirait que, selon nous, le problème de fond, c'est ce dogme du libéralisme dans l'énergie. Ça a emmené qu'une fragilisation du secteur et une hausse des factures. Il faut sortir du marché et à partir de là, le nouveau PDG pourra relever les défis qui lui seront posés sur la table.
La nomination du nouveau patron est attendue rapidement. Emmanuel Macron propose Bernard Fontana, le directeur général de Framatome, fabricant de combustibles et d'équipements nucléaires.
Éclairage signé Louise Buyens. Ils se sont tus à 10h41 précise ce matin. C'était dans le village du Vernet, département des Alpes de Haute-Provence. 10 ans jour pour jour après le crash de l'avion de la Germanwings précipité sur la montagne par son copilote Andreas Lubitz qui avait entraîné dans son suicide les 5 autres membres d'équipage ainsi que les 144 passagers en majorité allemands et espagnols. Leurs proches participent donc aujourd'hui à une journée de recueillement avec une première cérémonie ce matin, des proches soutenus dans cette épreuve par de nombreux habitants de la commune. Sur place pour Inter, Agathe Mahué.
Au petit cimetière du village d'abord, où se trouve une sépulture collective et 150 noms allemands et espagnols en majorité, les élus locaux, les officiels ont déposé des fleurs. Puis c'est à l'abri des regards, dans un grand chapiteau blanc dressé par Lufthansa, la compagnie mère de Germanwings, que les familles se sont retrouvées, 360 personnes, et une minute de silence à 10h41 précisément, l'heure du crash.
La cérémonie a été muy digna.
La cérémonie était très digne, très respectueuse, confie Lourdes, au nom des proches de victimes espagnoles, elle a perdu une amie très chère dans cet avion parti de Barcelone il y a 10 ans.
C'est émotionnel.
Engelbert, lui, salue la mémoire de sa fille, professeure. Elle avait 33 ans et elle accompagnait le groupe de lycéens allemands qui a péri dans l'accident.
Je peux seulement vous dire que ce 10e anniversaire est pour moi aussi douloureux que le premier. C'est très difficile à supporter, dit-il.
Engelbert est maintenant redescendu au village du Vernet, allumer un cierge dans la petite chapelle près du cimetière, en souvenir de sa fille.
Reportage Agathe Mahué. Gérard Depardieu, face à ses accusatrices, l'acteur français âgé de 76 ans est attendu au palais de justice de Paris à 13h30 pour le début de son procès, accusé d'agression sexuelle sur deux femmes. C'était lors du tournage du film Les Volets Verts à Paris en 2021. Les deux plaignantes étaient décoratrices et assistantes réalisatrices sur ce film. L'actrice Anouk Grimbert était elle aussi présente sur le plateau de tournage il y a 4 ans. Elle est venue ce matin leur apporter son soutien.
C'est le comportement d'un roi fou, parce que je crois qu'il est devenu fou, à force d'être dans un milieu qui lui permet tout, qui applaudit toutes ses dérives et ses violences. Mais depuis que les femmes, les victimes ont porté plainte, il s'est passé quelques mois. Pendant ces quelques mois, peut-être qu'il a réfléchi. Mais j'ai bien peur que ses conseils, son avocat, ses amis, tous les gens qui l'entourent l'invitent à mentir, à travestir la vérité, qui ne fait pas de doute. Il y a plein de témoins dans l'affaire qui va être jugée aujourd'hui. Il y a plein de témoins. Et puis de toute façon, tout le monde sait que c'est un agresseur. Tout le monde le sait. Et ceux qui sont dans le déni, on ne peut que les inviter à réfléchir à une société où les femmes ne seraient pas des objets violables aussi facilement que c'était le cas, quoi. On ne peut même plus compter le nombre de femmes qu'il a agressées.
Charlotte Piret, on vous retrouve au Palais de justice de Paris. C'est vous qui avez recueilli le témoignage et la parole d'Anouk Grimbert il y a quelques minutes. Vous allez suivre cette audience pour nous. Est-ce que Gérard Depardieu est arrivé ?
Oui, il vient tout juste d'arriver, hein, sans un mot, costume noir et basket par une entrée dérobée du tribunal. Gérard Depardieu s'installe en ce moment dans la salle d'audience. Prise d'assaut, affluence médiatique des grands jours des 9h ce matin. Presse nationale et étrangère pour ce qui sera donc, dans quelques minutes, la première comparution de Gérard Depardieu devant la justice. Mais au maximum, 6 heures par jour, pas plus, selon les recommandations de l'expert médical mandaté par le président de ce procès, car l'acteur de 76 ans souffre de diabète et de problèmes cardiaques suite d'un quadruple pontage coronarien. Des pauses régulières seront également nécessaires, a d'ores et déjà averti son avocat. Voilà donc pour les modalités pratiques, hein, si on peut dire. Sur le fond, ce dont il sera question pour cette audience, c'est le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Tournage dans un hôtel particulier du 16e arrondissement de Paris, à l'issue duquel Amélie, décoratrice, et Sarah, assistante réalisatrice, qu'on attend également d'une minute à l'autre ici. Les deux femmes avaient successivement porté plainte pour agression sexuelle, des attouchements sur les seins, les fesses, mais aussi du harcèlement ou des propos sexistes. Des faits non prescrits, contrairement à d'autres plaintes contre l'acteur. Par ailleurs, toujours mis en examen pour le viol de Charlotte Arnoux, première à avoir porté plainte contre lui. Elle est dans la salle aujourd'hui.
Charlotte Piret en direct avec les moyens techniques de Florent Layani. Toujours au sujet des violences sexuelles, mais à l'école et dans les établissements scolaires catholiques. La ministre Elisabeth Borne estime que l'on vit, je cite, une forme de MeToo scolaire. Elle a annoncé des mesures la semaine dernière qu'elle est venue détailler ce matin sur le terrain, car dans le sillage de l'affaire la plus médiatique, celle de Betarame, la liste des établissements concernés s'allonge chaque jour. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Vous étiez au rectorat de Versailles ce matin avec la ministre, qui confirme qu'un questionnaire anonyme va être proposé aux élèves internes.
Ce questionnaire en ligne devrait être rempli par les élèves 3 fois par an. On ne connaît pas encore le contenu des questions, elles sont en cours d'élaboration dès le ministère. Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation, veut une réaction systématique si des actes sont dénoncés.
Si on a des faits qui peuvent être révélés, dans ce cas-là, on approfondira les contrôles. Moi, je souhaite le faire naturellement, la main dans la main aussi, avec les équipes diocésaines qui sont aussi mobilisées pour s'assurer que les choses se passent au mieux au sein des établissements.
Ces questionnaires seront testés dans quelques établissements après les vacances de Pâques avant d'être généralisés à la rentrée scolaire cette année. Ils concernent aussi les élèves en voyage scolaire. Comme cette nouvelle affaire révélée ce week-end par nos confrères de Ici Loire-Océan, un directeur d'un lycée de Saint-Nazaire qui serait entré dans les chambres de jeunes filles lors d'un voyage scolaire. Dès qu'il y aura une nuitée, il faudra remplir ce questionnaire. Elisabeth Borne évoque une libération de la parole à laquelle il faut prêter attention.
Là, on voit qu'on n'est pas sur un enjeu de caractère propre, mais qu'on est sur un enjeu général de notre responsabilité collective de protection de l'enfance.
Pour répondre à ce nouvel enjeu, la ministre annonce des formations pour les 60 nouveaux inspecteurs afin de détecter les victimes de violences sexistes et sexuelles. Le syndicat majoritaire des inspecteurs académiques, le SIEN UNSA, y voit de bons signes pour l'instant, mais attend de voir précisément comment tout va se mettre en place.
Mathieu Bonnour, l'université de Tours, elle a dévoilé ce matin 27 mesures contre les violences sexistes et sexuelle. Un rapport avait été commandé après le déploiement d'une banderole sexiste lors d'une soirée d'intégration. Le président de l'université de Tours dénonce ce matin un phénomène systémique au sein de certaines associations étudiantes. Fin de citation. Toujours dans cette ville de Tours, une plaque a été inaugurée hier en la basilique Saint-Martin. Une plaque en mémoire de toutes les victimes de violences sexuelles dans l'église. L'inauguration s'est faite en présence du collectif Voix Libérée qui représente notamment les victimes de l'abbé Tartu, cet ancien chef de chœur condamné par le tribunal canonique l'automne dernier pour avoir abusé d'une vingtaine de jeunes choristes en Indre-et-Loire dans les années 60, 70 et 80. Adrien Bossard, c'est une étape de plus dans la lente reconnaissance de l'église vis-à-vis des victimes.
Lorsque le voile se lève sur la plaque, les chants laissent place au silence absolu. Les membres du collectif Voix Libérée s'agrippent le bras, pris par l'émotion. Le nom de leur bourreau, l'abbé Tartu, est mentionné avec cette inscription « L'Église demande pardon ».
Ça a été long, très très long, ça a été difficile, mais c'est beau.
Gilles est passé par les petits chanteurs de Touraine de ses 11 à 18 ans.
J'ai perdu la foi et je crois que je ne la retrouverai pas la foi. Puis j'ai porté ça pendant beaucoup d'années, plusieurs dizaines d'années même. Non mais je suis satisfait quand même de la façon dont l'Église répond à nos sollicitations.
Cette plaque, dans la basilique où se sont déroulées les violences sexuelles il y a plus de 40 ans, Mgr Jordi, l'archevêque de Tours, y est pour beaucoup.
C'est quelque chose que nous portons et que nous voulons continuer à porter, particulièrement sur la question de la prévention, puisque malheureusement, ces drames sont partout et qu'il faut qu'il y ait un réveil général de tous et de toutes autour de cette question.
Et il y a encore du chemin à faire, reconnaît Marie Dorin de Vaucresson, la présidente de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et réparation.
Ce serait injuste de dire qu'il n'y a pas de prise de conscience, mais ce serait aussi injuste de dire que tout le monde est au même rythme, que la prise de conscience, elle est unique, qu'elle permet réellement aux personnes victimes, dans l'ensemble des diocèses, dans l'ensemble des territoires en France, de pouvoir parler et d'être entendu.
Tours est la deuxième ville à avoir une plaque en mémoire des victimes dans une église, l'autre est en Vendée.
Reportage ici Touraine. À Orléans, le jeune homme arrêté pour l'agression du rabbin de la ville samedi à la mi-journée, ce jeune homme est toujours en garde à vue. Il s'agit d'un adolescent de 16 ans, inconnu des services de renseignement. Une marche silencieuse est prévue à Orléans demain 18h. Et ce matin, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, s'est exprimé sur cette agression, mais aussi sur ses raisons et sur son contexte, selon lui.
C'est à nouveau un événement qui montre qu'aujourd'hui, en France, malheureusement, le racisme, mais surtout l'antisémitisme, sont de retour. Nos compatriotes juifs représentent moins de 1% de la population nationale. Et pour autant, ils sont victimes de près de 60% des actes de racisme, des agressions religieuses. Mais cet antisémitisme, il a muté. Autrefois, il était d'abord le fait de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est résiduel. Il a désormais un double visage. Le visage de l'islamisme et un autre visage, celui de l'extrême gauche, qui, sous couvert de l'antisionisme, attise les braises de l'antisémitisme. Et les insoumis ont une énorme responsabilité. Donc l'antisémitisme ne vient pas de nulle part. Il n'y a pas de hasard aujourd'hui et il faut le combattre pied à pied.
Bruno Retailleau en déplacement à Belfort au micro de Julien Nenny. Quel rôle a joué le rappeur à succès Kobalade dans l'évasion meurtrière du narcotrafiquant Mohamed Amra ? Déjà emprisonné dans une autre affaire, Kobalade est en garde à vue depuis ce matin, tout comme 23 autres personnes, dont deux interpellées en Allemagne. C'est la quatrième vague d'interpellations depuis l'arrestation d'Amra en Roumanie fin février. Les enquêteurs les soupçonnent d'avoir participé à son évasion, puis à sa cavale.
France Inter, le 13-14... Jérôme Cadet.
En Turquie, c'est un bras de fer entre la rue et le pouvoir auquel on assiste. La rue, c'est un mouvement de protestation inédit depuis plus de 10 ans dans le pays. Des dizaines de milliers de personnes mobilisées dans des dizaines de villes dans les deux tiers de la Turquie. Le pouvoir, c'est celui de Recep Tayyip Erdogan, président depuis 10 ans, après avoir été pendant 10 années Premier ministre. Son principal opposant, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, accusé de corruption, a été arrêté la semaine dernière et démis hier soir de ses fonctions. Bonjour Marie-Pierre Véraud.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante en Turquie. Marie-Pierre, pour l'instant, Erdogan a décidé de ne rien céder. Il réprime durement ce mouvement.
Ah oui, la répression se durcit. En effet, le ministre de l'Intérieur fait état ce matin de 1133 arrestations depuis mercredi. Arrestations sur place, lors des rassemblements, mais aussi au petit matin, au domicile de militants politiques, de manifestants, de journalistes, domiciles qui ont été perquisitionnés. Un ancien membre du barreau d'Izmir, un écrivain et son épouse, des responsables de partis de gauche ont été interpellés et au moins 10 journalistes, dont un photographe de l'agence France-Presse, arrêtés à l'aube à leur domicile. Ici, à Istanbul, mais également à Izmir, dans l'Ouest. Les membres de la presse ciblés ici depuis deux soirs. Certains ont été atteints par des tirs de balles en caoutchouc. Des reporters du journal d'opposition Birgun, sévèrement battus hier soir par la police lors du rassemblement devant la municipalité d'Istanbul. Et ce, alors même qu'ils s'étaient identifiés comme journalistes. L'un a été frappé à coups de pied alors qu'il était à terre. Son masque à gaz lui a été retiré, son visage aspergé de gaz poivré. Les tirs de gaz lacrymogène sont par ailleurs de plus en plus intenses et la police joue de plus en plus volontiers de la matraque dans les cortèges. 123 policiers auraient par ailleurs été blessés, selon le ministère de l'Intérieur, qui parle de groupes terroristes.
Et l'Union européenne demande ce matin à la Turquie de respecter les valeurs démocratiques. Merci Marie-Pierre Véraud, en direct d'Istanbul. Situation en Turquie d'autant plus surveillée que le pays est un acteur clé des deux guerres du moment. La Turquie soutient sans faille du Hamas dans son conflit avec Israël. Le mouvement islamiste annonce que les bombardements israéliens ont fait 730 morts depuis la fin du cessez-le-feu la semaine dernière. Des Palestiniens qui déplorent notamment une frappe hier soir sur un hôpital de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Et notre correspondant à Jérusalem, Thibault Lefebvre, a pu joindre l'un des médecins de cet hôpital.
Le docteur Khaled Al-Ser confirme la présence dans les locaux de l'ancien membre du bureau politique du Hamas, Ismail Baroum.
Ils ont directement bombardé le bâtiment principal de l'hôpital Nasser. C'est le bloc opératoire qui a directement été ciblé. Nous avons eu de la chance, nous étions juste à côté avec les équipes médicales. Nos soignants vont bien, mais nous avons perdu deux patients qui ont été tués sur le coup.
Un adolescent de 16 ans et donc Ismail Baroum, le nouveau premier ministre du Hamas, selon les mots d'Israël Katz, en charge du portefeuille de la défense dans le gouvernement israélien et qui était donc hospitalisé à Al-Nasser après avoir été ciblé une première fois chez lui à Khan Younes pour l'avocat spécialisé en droit international pénal, Johan Soufi. C'est un crime de guerre présumé.
Le bombardement de l'hôpital Al-Nasser, même en présence d'un blessé présumé, membre du Hamas, constitue une violation flagrante des principes les plus fondamentaux du droit international humanitaire. Parce qu'une personne blessée ne peut plus être ciblée, elle est considérée hors de combat. Et enfin, et surtout parce qu'un hôpital, il faut le rappeler, est un lieu protégé par le droit international humanitaire qui ne peut en aucun cas être attaqué.
L'armée israélienne évoque de son côté une frappe menée après, je cite, « un vaste processus de collecte de renseignements et avec des munitions précises pour limiter les dégâts ».
Thibault Lefebvre à Jérusalem pour Inter. Dans le nord d'Israël, ce matin, un assaillant a mené un attentat à la voiture bélier, à l'arme blanche et à l'arme à feu. Il a tué une personne, une autre a été blessée, tout cela avant d'être neutralisé, indique la police israélienne. Je parlais du rôle de la Turquie dans cette guerre au Proche-Orient, la Turquie impliquée aussi dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Les Turcs soutiennent des Ukrainiens. Les négociations se poursuivent aujourd'hui en Arabie Saoudite en vue d'un cessez-le-feu. Des délégations ukrainiennes, russes et américaines sont sur place, mais Ukrainiens et Russes ne se parlent pas directement. Des négociations dans lesquelles il est évidemment question de territoire, ce conquis par la Russie depuis le début de la guerre ou annexé plus tôt. C'est le cas de la péninsule de Crimée où le pouvoir russe mène depuis des mois une intense propagande jusque dans les écoles, Sylvain Tronchet.
La semaine dernière, on célébrait en Russie le 11e anniversaire de ce que l'on appelle ici le rattachement ou le retour de la Crimée. Pour l'occasion, de nombreuses opérations ont été organisées dans les établissements scolaires à l'initiative du ministère ou d'organisations patriotiques, quand ce n'était pas tout simplement le parti au pouvoir Russie Unie qui s'invitait dans les collèges et les lycées, où les élèves étaient invités à regarder un film leur racontant l'histoire de la Crimée.
Dès 1993, des russophobes radicaux ont commencé
commencé à venir en Crimée. Ils sont venus forcer les Russes à abandonner leur langue maternelle. Il ne devait plus y avoir de Russes, mais seulement une ukrainisation forcée.
Un narratif bien connu. La Crimée n'aurait jamais dû devenir ukrainienne. Elle est russe et les élèves doivent l'apprendre, comme l'explique à la télévision ce député venu assister au cours dans un lycée de Touva, en Sibérie.
Ces leçons patriotiques sont très importantes pour la jeune génération, car elle doit bien connaître les valeurs de son pays, contre le fascisme, contre le nationalisme.
Les enfants des écoles primaires, eux, ont fait des dessins de la Crimée aux couleurs russes et ont appris que l'annexion de 2014 était la réparation d'une injustice historique. En revanche, pas un mot sur les soldats russes qui ont pris pied dans la péninsule en 2014, ni sur le droit international. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
Les États-Unis, eux, se verraient bien annexer le Groenland, territoire autonome danois. Jeudi prochain, une délégation américaine se rendra sur place. Le Premier ministre sortant du Groenland dénonce aujourd'hui une ingérence étrangère. Il n'y aura, dit-il, aucune rencontre avec cette délégation. Là encore, c'est un sujet qui interroge l'autonomie d'un territoire lointain. La Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique Sud, sous la souveraineté de la France, mais qui dispose de compétences propres, qui dispose aussi d'une équipe de football reconnue par la Fédération internationale, qui a disputé ce matin un match très important pour jouer la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. Les Néo-Calédoniens se sont malheureusement inclinés 3-0 face à la Nouvelle-Zélande, mais il leur reste encore une chance de disputer cette compétition. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
La Nouvelle-Calédonie aurait donc le droit de jouer une Coupe du Monde de foot. Expliquez-nous ça.
Oui, vous vous souvenez peut-être, Jérôme, il n'y a pas si longtemps, en novembre 2023, d'un France-Gibraltar. Pourtant, Gibraltar est un territoire britannique. C'est pareil. La France a aussi ses fédérations indépendantes. Elles sont au nombre de deux, Tahiti et donc la Nouvelle-Calédonie, membre à part entière de la FIFA, la Fédération internationale de foot, qui compte d'ailleurs 211 représentants, alors que l'ONU ne reconnaît que 193 pays dans le monde. Contrairement donc à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, qui sont rattachés à la Fédération française de football, la Nouvelle-Calédonie peut donc participer à des compétitions internationales. Il y a donc une équipe avec un surnom, les Cagous, un oiseau emblématique de l'archipel, et même un hymne. Soyons unis, devenons frères, un hymne qui a été entonné à tue-tête ce matin dans les rues de Nouméa par ceux qui veulent rêver quelques mois après les émeutes du printemps dernier dans l'archipel, des violences qui avaient d'ailleurs entraîné l'interruption du championnat local dans lequel évolue la majorité de l'équipe. Une dizaine de joueurs seulement sont en métropole dans des clubs de 3e ou 4e division et ils seront tous mobilisés en mars 2026 pour ce barrage intercontinental qui sera décisif pour une éventuelle première participation en Coupe du Monde. 6 nations participeront pour 2 qualifiés.
Il pourrait donc y avoir un France Nouvelle-Calédonie.
C'est possible, on aura la réponse dans un an.
C'est ça, dans cette Coupe du Monde qui aura lieu au Mexique, aux États-Unis
et
au Canada. Merci Emma Sarango. Pour ça, il faut que les Néo-Calédoniens se qualifient, ce qui n'est pas encore fait. Il faut aussi que l'équipe de France se qualifie depuis hier soir et sa qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations. On connaît les adversaires des Français pour aller jusqu'à cette Coupe du Monde. Les Français qui seront opposés à l'Azerbaïdjan, à l'Ukraine et à l'Islande. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, vous l'avez constaté, le cours du café ne cesse de grimper. Quelles en sont les causes? Comment les professionnels s'adaptent-ils? Comment vous adaptez-vous votre consommation? On a déjà beaucoup de questions sur ce sujet. Allez-y, rajoutez les vôtres. 01 45 24 7000. 13h45, une semaine dans la vie d'une proposition de loi. Nous sommes cette semaine avec deux députés, un de droite et un de gauche, qui veulent un nouveau texte sur le handicap. On va vous expliquer comment on rédige notamment ces textes. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, les mots de nos régions pour parler du printemps.
On sent le soleil qui revient, des bourgeons qui pointent et les mots qui refleurissent. Le printemps est là et dans nos régions, il a bien plus d'un mot dans sa besace.
Les mots fleurissent chaque lundi avec Mathieu Avanzi. Et avec vous Frédéric, un musicien.
Les mots fleurissent aussi.
Bien sûr.
Mais nous irons à la rencontre d'un chanteur, oui, Florent Motte, qu'on a pu voir dans plusieurs comédies musicales et qui nous parlera d'une comédie musicale, Starmania. Son premier spectacle, il avait 7 ans et n'a pas oublié Morane qui chantait la complainte de la serveuse automate.
Comment l'oublier? Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
BMW
100% électrique, 100% plaisir de conduire. Retrouvez l'âme de BMW dans chacun de nos modèles électriques. Et en ce moment, la BMW iX1 M Sport est à 390 euros par mois.
Offre pour BMW iX1 20 M Sport, LLD 48 mois, 40 000 km. Premier loyer 390 euros après déduction bonus écologique de 2000 euros. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 avril 2025 si accord BMW Finance. Conditions sur bmw.fr.
Pensez à covoiturer.
L'amour, le pouvoir, la dignité. Dan Lehmann a tout perdu. Noyé dans l'alcool et les affaires judiciaires, la vie de l'ex-président de la République se fissure, au même rythme que son mariage avec l'actrice Hilda Müller. Avec son nouveau roman, Karine Thuil explore les mécaniques cruelles du pouvoir et du couple. Dans une société fracturée de toutes parts, où la jeunesse et le capital social deviennent les meilleures armes de séduction, se joue une guerre clandestine. Mais qui en sortira vainqueur ? La guerre par d'autres moyens, de Karine Thuil, aux éditions Gallimard.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est un ciel d'averse aujourd'hui, averse orageuse sur un grand quart sud-est.
Oui, de la Méditerranée vers l'est du Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura, les Vosges et sur la Corse aussi, on a encore un ciel instable, des nuages, des averses, parfois accompagnés d'orages. Pourquoi pas un peu de grésil, notamment vers la Provence. Un ciel très nuageux également près des Pyrénées avec des averses assez nombreuses. Beaucoup de nuages aussi du nord-ouest au Nord-Pas-de-Calais, mais là les averses sont rares. Et puis c'est quand même plus agréable hein, de la Garonne vers le Poitou, le Centre-Val de Loire, le bassin parisien, les Ardennes, la Lorraine, moins d'averses et plus d'éclaircies. Les températures gagnent quelques degrés, elles sont plutôt douces, comptez 11 à 13 degrés près de la Manche, ailleurs 13 à 17 degrés, jusqu'à 18 pour le nord-est. Demain, il faudra à nouveau composer avec des averses au sud de la Loire l'après-midi, plus fréquentes et orageuses, toujours des Pyrénées vers les Alpes et la Méditerranée.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Christophe Servelle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes torréfacteur, président fondateur de Terre de Café. Vous êtes aussi vice-président du collectif Café, tout simplement, qui regroupe 350 torréfacteurs français représentant 800 points de vente. Vous nous rappelez, Christophe Servelle, ce qu'est un torréfacteur ? Quelle est son activité ?
Un torréfacteur, c'est quelqu'un qui reçoit du café vert, qu'il a sélectionné, si possible, et qui est cru, et donc qui va le cuire. La torréfaction, c'est cuire du café pour développer les arômes.
Et ensuite, le proposer à des clients en direct.
Et le proposer à des clients en direct, absolument, lorsqu'on a des boutiques de torréfaction.
Ouais. Je redonne ces chiffres. 2,10 € le kilo de café Arabica, ça c'était en janvier 2019. 4 €, c'était en janvier 2024. 6,82 €, ça c'était en janvier 2025. On a une idée de la hausse des cours, le café coûte de plus en plus cher. C'est un enjeu de pouvoir d'achat important, puisque 86% des Français affirment consommer du café régulièrement. Pourquoi une telle hausse ? Qu'est-ce que ça change pour vous, torréfacteurs, pour les industriels, pour les consommateurs ? 01 45 24 7000. Vous nous appelez, vous passez également via l'application France Inter. Et Thierry est en ligne avec nous. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Toulouse ?
Oui.
Combien de cafés par jour, Thierry ?
Ah, moi, je bois beaucoup de café. Vous voyez, je suis un soignant. Alors du coup, pour tenir debout, ben, je bois du café.
Vous êtes à l'hôpital ?
Non, je suis à l'hôpital, j'ai quitté.
Vous avez quitté l'hôpital, mais vous êtes toujours soignant, ouais. Et donc ça fait combien de cafés ? Vous avez compté par jour à peu près ?
Oh, écoutez, moi je fais avec une cafetière italienne et je bois à peu près, allez, 2 cafetières italiennes. Ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 8 cafés quoi.
8 cafés par jour. Donc vous vous êtes rendu compte que le prix du café avait augmenté ?
Ah oui, le prix du café augmente, certes, oui.
Quelle est votre question, Thierry ?
Alors ma question naïve, mais à demi naïve, est la suivante. Vous dites le cours du café donc augmente,
oui.
Mais dans votre constatation, j'entends bien le mot « cours » du café.
Oui, oui.
Donc ma question est en gros, comment cette hausse bénéficie ou ne bénéficie pas aux petits producteurs de café, puisque a priori c'est eux qui suent pour le fabriquer, ou est-ce que c'est simplement les spéculateurs qui en profitent ?
Oui. Merci Thierry pour cette question. Christophe Servelle, comment on s'explique, comment se construit le prix du café ? Et est-ce que voilà, on est passé de 2 € en 2019 à 6,82 €, donc il y a un peu plus de 4 € d'écart. Est-ce qu'il y a une partie de cette somme qui va dans la poche du producteur ?
Alors merci pour la question d'abord, parce que c'est la question à poser. Non, malheureusement, l'augmentation du prix du café ne profite pas entièrement aux petits producteurs. Elle profite beaucoup aux grands producteurs, notamment les grands producteurs brésiliens. Mais il faut savoir que cette augmentation, déjà, elle est liée à une crise de la filière, ce qu'on appelle la filière conventionnelle. En fait, on ne produit plus assez de café par rapport à la demande. On produit de moins en moins de café parce que la filière est abîmée. Pour une demande mondiale qui va croissante, des pays comme la Chine ou l'Inde, donc c'est beaucoup de gens, se mettent au café. Donc il y a une montée en gamme et il y a une montée de la consommation dans le monde entier. Donc le problème du café cher, c'est que les petits producteurs le vendent à des exportateurs qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des cerises chères. Et ces petits producteurs produisent de moins en moins de café puisque le changement climatique vraiment met à mal les récoltes et il y a moins en moins de main-d'œuvre. Pourquoi il y a de moins en moins de main-d'œuvre ? Parce qu'on a sous-payé le café pendant maintenant 2 siècles et que le café n'est pas rémunérateur et ne permet pas aux producteurs d'élever leur famille, d'envoyer les enfants à l'université, de se soigner. Donc,
même aujourd'hui, avec les cours qui augmentent, les producteurs ont du mal à vivre. Vous dites les petits producteurs.
C'est trop tard. C'est-à-dire que, en fait, c'est la cohorte qui est en train de rompre. On a un peu trop abusé, l'industrie agroalimentaire a un peu trop tiré sur la corde.
Tirer les prix vers le bas, c'est ça ?
Absolument, on a pris avantage sur les producteurs parce qu'il y avait beaucoup de café qui est au-delà de la demande. Donc effectivement, on serrait les prix.
En serrant les prix. Concurrence entre les producteurs, c'est ça ?
Absolument, ouais. Absolument. Et en serrant les prix, on arrive dans des méthodes de production où on déforeste, on utilise des intrants chimiques, des pesticides, etc. Et on abîme la matière première du producteur, c'est-à-dire sa biodiversité. C'est grâce à ça qu'une plantation devient résiliente en cas de bouleversement climatique comme il se passe aujourd'hui. Donc la corde est rompue et un petit producteur aujourd'hui, comme il a moins de café à vendre, il ne va pas vraiment bénéficier de la hausse des cours. Et cette hausse des cours entraîne aussi, en plus de ça, une rupture du financement à l'origine. Pourquoi ? C'est simple. Les grands torréfacteurs, il y a 3 grands torréfacteurs mondialisés qui se partagent 85% du marché.
C'est qui ?
Ont attendu, je peux les donner, c'est JDE, c'est Nestlé et c'est Lavazza.
Uh-huh. Ont attendu, 85% du marché.
Ouais, mais il y en a d'autres, il y a des gros torréfacteurs régionaux, etc. Ces gens-là vont au même guichet, achètent les cafés les moins chers possibles. Et donc, ils ont attendu le maximum que les prix baissent. Et donc, il n'y avait pas de contrat. Donc, pas de contrat, pas d'achat de cerises pour les producteurs. Donc, la situation est vraiment assez grave. Alors, par contre, au bout d'un moment, ils sont obligés d'acheter. On est tous obligés d'acheter, sinon on n'a pas le café. Et tout le monde a acheté très cher. Et donc ça, le consommateur va le sentir passer. Mais ça va être rapide, malheureusement.
3 groupes contrôlent 85% du marché mondial, Christophe Cervel.
Oui, c'est fou.
C'est
hein.
Extrêmement concentré.
C'est fou. Et ces grands groupes sont distribués par les grands distributeurs, donc les grandes surfaces, qui concentrent à eux seuls 90% des ventes de café. Donc oui, il y a un problème, mais il y a un problème structurel dans la filière, et cette filière se porte très très mal.
Mais ça veut dire que là, les négociations commerciales se sont achevées entre la grande distribution et les industriels. Là, on est dans un rapport de force qui est très favorable aux industriels du café ?
Non.
Non ?
Ben non, parce que les acheteurs de grande distribution s'en foutent un peu de ce qui se passe à l'origine. Eux, leur seul objectif, parce qu'ils sont en concurrence avec d'autres groupes de grande distribution, et c'est très très violent, c'est d'acheter le moins cher possible. Donc, on a déjà assisté, il y a 2 ans, à des déréférencements d'industriels.
On sort des industriels et leurs produits, leurs marques, des rayons.
On les sort, on garde... Mais il y a un moment donné où le prix, c'est le prix. C'est-à-dire que le marché dont on parle, c'est le marché des commodités. À mon sens, le café ne devrait pas être une commodité, c'est un autre sujet.
Ça veut dire quoi les commodités ?
La commodité, c'est toutes les matières premières de grande consommation qui sont cotées sur des marchés. Mm-hmm. C'est le cas du pétrole, c'est le cas du soja, c'est le cas du sucre, c'est le cas du blé et c'est le cas du café. Sauf que le café, c'est très coûteux à produire, c'est beaucoup de main-d'œuvre, c'est beaucoup de savoir-faire et c'est très long. Et donc on en a fait une commodité au 19e siècle. Et je pense que là, on a commencé, c'est le début de la fin de la filière conventionnelle telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Vous, où est-ce que vous fournissez, Christophe Cervel ? Qui sont vos producteurs ? C'est aussi le collectif qui a fait 350 torréfacteurs.
On s'approvisionne auprès de fermiers, de fermes. La grande différence, c'est que nous, on les connaît. C'est-à-dire que mon travail, un tiers du temps, je passe un tiers de mon temps à l'origine, donc en Amérique centrale, en Amérique sud, en Afrique de l'Est, à discuter et à faire des projets avec des producteurs. Des producteurs qui sont des gens aujourd'hui... Alors nous, on est spécialisés dans le café de terroir de qualité, qu'on appelle aujourd'hui café de spécialité. Et donc, on a affaire à des gens qui sont éduqués, qui sont cultivés, qui ont une vision de leur business, qui ont une vision de la durabilité. Parce qu'il y a un vrai souci aujourd'hui de durabilité. Si la filière craque à la première sécheresse ou à la première gelée, c'est que les plantations ne sont pas résilientes. Ouais. Et la seule manière de rendre résiliente une plantation, c'est de remettre des arbres, de la régénérer, de remettre des arbres, de remettre des insectes, des oiseaux, des vers de terre, etc. Donc nous, on discute directement, on achète directement le café à des producteurs avec lesquels on travaille. On travaille avec une vingtaine de fermes, 25 aujourd'hui dans le monde. Et on essaie de s'émanciper au maximum de ce prix de marché. Le problème de ce prix de marché, c'est qu'il reflète beaucoup les producteurs du Brésil qui sont très bons producteurs, hein, c'est pas ça, mais qui sont mécanisés. C'est-à-dire qu'on est en plaine, on a un coût de production qui est 2 à 3 fois moindre que des producteurs. Donc le marché ne représente pas...
Au Guatemala ou au Kenya, par exemple.
Exactement. Donc le marché ne représente pas l'ensemble des producteurs. Il représente le plus gros producteur mondial d'Arabica, et le marché à Londres représente le plus gros producteur de Robusta au monde, qu'est le Vietnam. Et donc il y a une dichotomie qui se crée. Effectivement, tous les producteurs ne s'y retrouvent pas. Il faut savoir que 85% des producteurs sont des producteurs qui ont des propriétés de moins de 5 hectares.
Problème de production, nous avez-vous dit, en raison des aléas climatiques, du changement climatique, c'est ça, au Vietnam et au Brésil, qui ont affecté la production ces dernières années?
Oui, mais c'est partout. Hein. Ouais. Moi, je me déplace, je le vois depuis 10 ans, mais c'est de plus en plus violent.
Vous avez un exemple en tête?
C'est-à-dire, là, j'étais au Salvador, ouais. Par exemple, moins 30% de production due à des vents violents et à des pluies très violentes. Moins 30% de production.
Ça, c'était sur l'année dernière?
C'est cette année.
Cette année. La production 2025.
Pour lui, qu'est-ce que ça change dans la filière? En réalité, ce qui se passe en ce moment va tout changer.
Mais ça veut dire que c'est des gens qui perdent tout, enfin une grande partie de leur production?
Oui, absolument. C'est des gens qui ne sont pas forcément rentables. C'est-à-dire que c'est des gens qui... La production de café, en général, chez les petits moyens producteurs, c'est vraiment une production, c'est la production de rente, c'est ce qu'on vend. D'accord ? Effectivement, même avec des cours hauts, avec moins 30%, on gagne soit pas plus ou soit moins en réalité.
Donc il y en a qui arrêtent après une année d'intempéries.
Merci pour la question. Oui, il y a beaucoup de gens qui arrêtent. C'est un des autres problèmes. Il n'y a pas de main-d'œuvre et on vend les fermes parce que les pays, notamment là où j'étais en Amérique centrale, sont des pays en développement. Et donc il y a une pression foncière, une pression immobilière. Il y a des gens qui investissent dans ces pays-là. Et pour un producteur se voir offrir 300 000 dollars pour sa ferme, il ne se pose pas longtemps la question quand il n'en vit pas.
Ouais, s'il a besoin d'argent pour élever sa famille, la pression est tellement forte qu'on y va, qu'on vend. La question, c'est aussi celle de la demande. Vous avez dit qu'en Chine, par exemple, on boit de plus en plus de café. On sait l'expliquer, ça, Christophe Servelle?
Oui, il y a le café... Alors, il y a une montée en gamme globale, hein, au niveau mondial, de la consommation de café. C'est-à-dire qu'on consomme mieux. Le phénomène incroyable de ces dernières années, c'est qu'on revient, il y a eu la mode de la capsule, on revient sur la consommation de café en grains.
Ah.
Et dans ce café en grains, on retourne chez son torréfacteur. Il y a un phénomène de fond qu'on appelle café de spécialité. Il y a des torréfacteurs, le métier renaît de ses cendres. Il y a des torréfacteurs qui se créent chaque semaine en France, et en Europe, et partout d'ailleurs. Et il y a un autre phénomène qu'on appelle le phénomène des coffee shops. Ça ne vous a sûrement pas échappé qu'il y a des coffee shops partout.
Ça ne nous a pas échappé, on en a parlé, mais pas uniquement à Paris
partout
d'ailleurs.
En France, et même dans des petites villes, c'est incroyable. Et ça change la consommation du café.
Mais ça, c'est un phénomène mondial.
C'est un phénomène mondial, bien sûr. On a la même chose à Quito, on a la même chose à San Salvador, on a la même chose à Rio de Janeiro. C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer.
Chloé nous appelle de Voiron. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Département de l'Isère, nous vous écoutons.
Alors, merci de prendre ma question. Moi, j'ai une question qui est un petit peu double. J'ai découvert la chicorée pour limiter ma consommation de café pendant ma grossesse. Et c'est un produit qui, je crois, a l'énorme avantage d'être produit en France. Donc, j'aurais beaucoup aimé avoir une réaction de votre invité sur le sujet. Et ma sous-question est celle qu'actuellement, sur les réseaux sociaux, on est extrêmement sollicité par des publicités pour des ersatz de café à base de champignons adaptogènes dotés de propriétés a priori incroyables, anti-inflammatoires, qui favorisent l'immunité, bénéfiques pour l'énergie, la concentration. Et c'est pareil, je me posais globalement la question des alternatives au café.
Merci Chloé pour votre question. Christophe Servelle, bon, la chicorée c'est une plante qu'on connaît depuis longtemps, qu'on connaît bien dans le département du Nord et du Pas-de-Calais, notamment dans notre pays.
Oui, oui. Alors bon, ça rejoint autre chose. En fait, nous on pense qu'avec un café, on monte en gamme, un café plus cher, il va falloir changer sa consommation. Autrement dit, boire moins et mieux. Je pense qu'on se rend pas compte, les auditeurs se rendent pas compte de la le café va prendre 20-30%
encore
ces prochains, voilà, ouais. C'est ça. Donc la chicorée, ben pourquoi pas, sauf que la chicorée, c'est très bien, hein, c'est une plante, ça pousse effectivement dans le nord de la France, sauf que c'est pas du café. C'est pas aussi fin, un très beau café. Ce qui change entre un café de spécialité et un café conventionnel, c'est que d'un seul coup, on a des notes de fleurs, des notes de fruits, des notes de cacao, et je pense qu'il faut revenir, il faut reconsidérer l'image qu'on peut avoir du café. Ça n'est pas ce truc brûlé, dégueulasse, et qui devient cher en plus, mais aller chercher sur la qualité. Donc la chicorée, bah, très bien, et pour les gens qui aiment ça, bah, c'est très bien.
Mais c'est un autre produit.
Mais c'est un autre produit, absolument.
Et sur la question de Chloé, sur les ersatz de café, elle voit des pubs passer sur les réseaux sociaux, vous constatez ça?
Alors il y a un phénomène de fond, il y a une tendance de fond, le café est à la mode, enfin ça va au-delà d'une mode, hein. C'est un phénomène de fond,
ouais.
Mais effectivement, il y a un phénomène après d'opportunités de business où il y a des tas de gens qui essaient d'en tirer parti. Moi, personnellement, je pense qu'il faut s'en méfier et regarder ce que c'est. En fait, l'important dans le café, c'est quoi? C'est le goût et c'est de savoir qui le fait, où c'est fait, comment c'est fait, c'est de la traçabilité.
Et ce sont des questions que vous vous posez en ce moment avec le collectif Café lors de votre Assemblée Générale. C'est à la Plaine Saint-Denis, 350 professionnels autour de vous. Je le dis parce que je sais que vous avez pris 2 heures de votre journée pour venir jusqu'à nous et vous extraire de cette réflexion en cours, suscitée évidemment par l'évolution du prix du café, mais pas uniquement. Merci Christophe Servelle, président fondateur de Terre de Café, d'avoir été avec nous dans ce 13-14, 13h45. Notre feuilleton. Cette semaine, on se demande comment se fabrique une loi, une proposition de loi, en l'occurrence sur le handicap. Elle est portée par 2 députés, l'un de droite, l'autre de gauche. Et toute cette semaine, on va voir ce qui se passe en coulisses pour l'écrire et pour la faire voter. Premier épisode aujourd'hui, la consultation des associations et des acteurs majeurs du secteur du handicap. Nous sommes dans une petite salle de l'Assemblée nationale.
Bonjour, bienvenue. Je peux vous asseoir?
Merci.
Merci beaucoup.
Comment on se met alors? Hop. Bon, l'idée, c'est que nous, on a, depuis qu'on s'est rencontrés, on a travaillé un peu à des dispositifs juridiques pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. Et l'idée, c'est qu'on vous présente ça pour que vous nous disiez sur certains points si y a des points d'accord, de désaccord, si on peut compléter. Parce qu'on veut essayer d'expérimenter une méthode nouvelle dans ce travail-là pour élargir au maximum et faire en sorte qu'on atteigne rapidement les 289 députés pour que le texte soit vraiment discuté en 2025.
Bonjour, je m'appelle Antoine Vermorel-Marquez, je suis député LR de la Loire.
Bonjour, je m'appelle Sébastien Saint-Pastor, je suis député de la 7e circonscription de la Gironde au Parti Socialiste.
Et on s'apprête à rencontrer Jérémy Bourroy, qui est le président du Conseil national des personnes en situation de handicap, pour lui présenter nos travaux depuis 6 mois et avoir son avis avant de déposer notre texte.
En gros, en complément de ce qu'a dit Antoine, on a un moment politique qui est quand même assez chaotique et on a un sujet qui peut réunir, je pense, aussi bien le gouvernement que les députés pour les 12 millions de personnes en situation de handicap.
Et donc, l'une des premières mesures qu'on proposerait, ce serait d'aligner l'AAH sur la question du seuil de pauvreté, donc ça a un coût. Hein.
Excusez-moi, messieurs, je vous interromps une seconde. Vous parlez de l'AAH, Antoine, c'est l'allocation adulte handicapé, c'est ça?
Exactement, c'est l'allocation qui touche les adultes. Si demain, par exemple, vous devenez en situation de handicap, vous pouvez bénéficier de cette allocation.
Elle est combien aujourd'hui?
Elle est d'environ 1 000 euros. Et le seuil de pauvreté est à 1200 euros. Donc nous, ce qu'on propose, c'est une augmentation de 200 euros de cette allocation pour qu'à minima, vous ayez les ressources nécessaires pour vivre, quelle que soit votre situation et les difficultés de la vie.
Voilà l'idée et la philosophie globale.
Merci beaucoup de lancer, de saisir l'opportunité de remobiliser un peu tous les acteurs et dans une démarche ouverte et transpartisane. Néanmoins, commencer par le sujet essentiel, mais qui ne peut pas être, selon moi, la porte d'entrée des ressources, avec l'âge, sans se dire « regardons d'abord comment on accède à un emploi », je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose d'abord le droit commun avant d'ouvrir tout le terroir.
Ok, bon boulot.
Alors là, après 1 heure de réunion, vous en tirez quoi comme bilan? Il y a des points d'accord, des points de désaccord, c'est normal, j'imagine?
Oui, c'est normal. Il y a surtout, nous, la difficulté qu'on a en tant que député, c'est qu'on ne peut pas tout mettre, surtout dans le contexte actuel. Et on entend face à nous la multitude des difficultés. Donc il faut qu'on arrive à faire œuvre utile sur des sujets spécifiques. Et c'est pas simple, parce qu'il faut les choisir, ceux qui font le plus consensus dans une assemblée qui est complètement divisée, pour pouvoir avancer et préférer le petit pas au grand lendemain qui n'arrive jamais. Quoi. Et souvent on dit, mais comment ça se fait que ça met si longtemps pour faire une loi? Une loi, il faut 8 à 9 mois pour arriver à la faire. Mais si on fait une connerie, il faut 8 à 9 mois pour la corriger. Donc autant prendre le temps avant de bien la rédiger, qu'elle soit bien votée, plutôt que de la modifier quelques mois ou quelques années plus tard.
La gauche qui travaille avec la droite avec la gauche, ça marche? encore aujourd'hui, ça c'est possible ?
L'avenir nous le dira, mais après, moi j'ai déjà de l'amitié, de l'affection et de l'estime pour Antoine à titre personnel.
C'est réciproque, ouais. C'est bien sûr que c'est réciproque. Voilà, c'est pour ça que ça fonctionne d'ailleurs.
On travaille bien ensemble, après il y a des sujets sur lesquels on peut être en désaccord, droite-gauche classique, mais je pense que le handicap a cette noblesse de pouvoir un peu sublimer les clivages et de pouvoir rassembler quels que soient les bords politiques. Parce qu'en gros, on est tous sollicités dans nos permanences. Le handicap, il touche toute catégorie sociale, il touche toute sensibilité politique. Et ben, c'est ça qui fait que dans ce bordel ambiant, pardon de le formuler ainsi, ça peut être aussi un sujet qui rassemble. En tout cas, c'est notre espoir et on est très motivés pour faire avancer positivement les choses.
Feuilleton est signé Julien Nény cette semaine. La suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le lundi à 13h49. Nous sommes avec notre linguiste spécialiste du français de nos régions, Mathieu Avanzi. Et Mathieu, vous aviez envie de nous parler aujourd'hui du printemps, mais dans les mots de nos régions.
Oui, et on va commencer tout simplement par le mot « printemps » lui-même. Ce mot que l'on croit banal cache en réalité une belle histoire. Il remonte à la locution latine « primum tempus », littéralement le premier temps de l'année. Mmh. Une manière de dire que l'année ne commence pas vraiment avec janvier, mais avec le réveil de la nature. Alors ce « primum tempus », on le retrouve aussi dans l'ancien français sous la forme « prime voir », un mot aujourd'hui disparu, mais qui a laissé une trace dans le nom d'une fleur, la « primevère », fleur du renouveau, par excellence.
Mais que l'on ne nomme pas partout primevère.
Non, en effet, dans certaines régions, notamment dans la moitié sud de la France, on appelle ces fleurs des coucous. Non pas parce qu'elles chantent, mais parce qu'elles apparaissent à peu près au même moment que le coucou gris, cet oiseau dont le retour sonore annonce également le printemps dans les campagnes. Et en Bretagne, ça devient des bouquets de pain beurre ou des bouquets de lait. Parce qu'une légende populaire dit qu'autrefois, il était tradition d'aller de ferme en ferme pour offrir un bouquet de fleurs des champs en échange d'un bol de lait ou d'une tartine de pain beurre. En somme, le printemps ne se contente pas de faire pousser les fleurs, il fait aussi bourgeonner les mots. Il suffit de regarder autour de soi pour s'en rendre compte. Prenons juste un exemple, le pissenlit. Cette plante qu'on consomme en salade dans certaines régions, eh bien, figurez-vous qu'elle change de dénomination selon les départements. En Franche-Comté, on appelle ça des cramaillots. Autour de Lyon et de Saint-Étienne, ça devient des barabans. En Savoie, des dents de Lyon. Et dans l'Aveyron, ce sont des grabelles.
Le printemps, Mathieu, c'est aussi une saison qui alterne coup de chaud et coup de froid, on en trouve la traduction dans notre vocabulaire ?
Oui, bien sûr Jérôme, rien qu'avec le mot giboulée, on sent déjà les contrastes de la saison, un mélange de pluie soudaine, parfois de grêle, entre deux éclaircies. Et les langues régionales l'ont bien remarqué, elles aussi. Là où le français standard parle vaguement de retour du froid, les régions, elles, ont des mots bien plus précis et souvent plus savoureux. En Savoie, par exemple, on parle de rebuse, on dit aussi rabuse, pour désigner ce brusque froid qui fait son retour, celui qui vous prend par surprise, alors qu'on croyait déjà l'hiver derrière nous. À l'inverse, dans le Jura, dans les Alpes, en Bourgogne ou même dans le Lyonnais, on parle plutôt de redoux ou radoux selon les endroits pour désigner une période de réchauffement soudain. Et puis on l'a dit, le printemps c'est une saison d'entre-deux, de contraste avec des phénomènes qui lui sont propres. Dans les Ardennes, on utilise le verbe geloter pour parler de ces petites gelées tardives typiques des nuits de la fin mars quand le thermomètre flirte encore avec le zéro au petit matin. Et si les températures baissent, il arrive aussi que la grêle s'invite. En Saintonge, on parle alors de furbet pour désigner ces averses de grêlon. Mais attention, si ça tape vraiment fort dans la région de Nantes, on dit carrément qu'il choie des marteaux. Autrement dit, qu'il tombe des marteaux du ciel. Une image aussi spectaculaire que parlante, vous en conviendrez. Et pour finir, je voulais rappeler ce petit dicton populaire parce qu'à mon sens, il résume bien la situation qu'on vit en ce moment. Mars, c'est encore un mois d'hiver. Tant qu'il n'est pas passé, l'hiver n'est pas fini. Autrement dit, ne rangez pas trop vite vos écharpes. Le printemps aime encore jouer à cache-cache avec l'hiver.
Merci Mathieu Avanzi de nous avoir expliqué à quel point nos mots, les mots de nos régions traduisent ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire le printemps de C'est la France. Ah, c'est une chanson printanier également, c'est le chanteur Florent Motte qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro Frédéric Pommier.
Florent Motte que l'on a pu découvrir dans la comédie musicale Mozart, l'opéra rock, puis qu'on a revu dans La Légende du roi Arthur, autre comédie musicale, il tenait le rôle principal. En ce moment, on peut le voir dans Star Musical, spectacle composé autour des plus grands tubes des comédies musicales. Et avec lui, nous avons parlé d'une chanson extraite D'une comédie musicale, La Complainte de la Serveuse Automate, l'un des titres de Starmania, Luc Plamondon, Michel Berger, un grand souvenir pour Florent Mott, il avait 7 ans.
C'est le premier concert que j'ai vu de ma vie. Et c'est la première œuvre dont les paroles ont eu une résonance sur moi. C'est la première œuvre dont je commençais à comprendre les paroles, à m'intéresser aux paroles, à essayer de savoir ce qui se passait. Et je pense qu'à l'époque, j'ai, on va dire instinctivement, compris que l'histoire de ce monde dystopique, Starmania, Zéro Janvier, les étoiles noires, etc., c'était en fait une critique de notre société de la fin du XXe siècle. Et je pense que cette histoire-là, elle m'a fait vachement peur quand j'avais 7 ans. Et donc, j'ai été touché par cette histoire de la serveuse automate qui n'a pas demandé à venir au monde. Elle est dure, cette phrase. La première phrase de la chanson, c'est « J'ai pas demandé à venir au monde ». C'est un cadeau, la vie. C'est un truc magnifique. Mais si on a une espèce de mal-être, une sorte de mélancolie en soi, c'est exactement ça. Personne n'a demandé à venir au monde. Et donc, voilà, moi, je pense que cette chanson m'avait touché parce que je devais avoir une espèce de mélancolie en moi.
À 7 ans.
Ouais. Mais parce qu'à 7 ans, c'est aussi l'âge où on commence à comprendre qu'on est dissocié du monde, qu'on n'est pas nos parents, qu'on est une personne à part entière. Et on commence à se poser plein de questions sur la vie, sur la mort, sur ces choses-là.
J'ai pas demandé à venir au monde. Je voudrais seulement qu'on me fiche la paix. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, mais faut bien que je paye mon
Alors, la version qu'on entend ici, Frédéric, date de 1988.
C'est la version que Florent Mott a vue en concert avec Morane, dans le rôle de Marie-Jeanne, la serveuse automate.
Je me rappelle de Morane sur scène, et je me rappelle d'autant plus que le disque de Starmania de 88, c'est la version sur scène. Donc mon souvenir est ravivé à chaque fois par la bande-son, quoi, parce que je l'ai vu et puis je l'ai écouté pendant des années après. Et voilà, il y a certains artistes comme ça qui ont une espèce de musicalité un peu surdéveloppée. Et je pense que Morane en fait partie, quoi. Elle a le groove, elle a l'attitude, la mélodie, la justesse, elle a tout ça. Et voilà, elle m'avait profondément marqué aussi.
Quand vous avez 7 ans et que vous découvrez cette chanson, cette comédie musicale, est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire de votre vie ?
Non, à 7 ans, je ne sais absolument pas ce que je veux faire de ma vie, mais justement, c'est pour ça que les paroles résonnent en moi, c'est parce que ça me fait un petit peu peur. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? De temps en temps, je gratte ma guitare, c'est tout ce que je sais faire de mes 10 doigts. Et c'est ce que je me suis dit pendant longtemps. Qu'est-ce que je vais faire à part de la musique ? Qu'est-ce que je sais faire à part de la musique ? Et ouais, Starmania, c'est la plus grande comédie musicale française et c'est une très très belle partition.
Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? C'est ce que je me dis tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie de rien, j'ai juste envie d'être bien.
Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je vais faire demain ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est des questions que vous vous posez ?
C'est quelque chose qui m'a poursuivi en tout cas, cette espèce de mélancolie, mais c'est un peu la mélancolie à la française, le mal de vivre, le mal-être. Même Victor Hugo en parle de la mélancolie, c'est le bonheur d'être malheureux, etc. Et moi, ça fait partie de moi pendant longtemps. Je m'en suis un petit peu détaché, j'ai retrouvé un peu un sens à ma vie, un sens à la vie, au bonheur. J'ai retrouvé le bonheur de vivre, etc., quand je suis devenu parent, justement.
Parce que ça vous a permis peut-être aussi de vous décentrer ?
Oui, j'ai toujours voulu avoir des enfants en me disant ça permettra peut-être que j'arrête un peu de penser trop à ma pomme. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver la joie de l'instant présent et de m'occuper de quelqu'un d'autre plutôt que de m'occuper de moi. Voilà.
Morane, La Complainte de la Serveuse Automate. C'était donc, Frédéric, le choix de Florent Mott.
Florent Mott, que l'on peut retrouver dans Star Musical, spectacle actuellement en tournée. Il se jouera vendredi prochain à Bordeaux et dimanche à Clermont-Ferrand.
Merci Frédéric et à demain.